Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui, nous revenons en Extrême-Orient, chers amis, presque notre zone de confort.
Retour à la maison.
Retour à la maison, oui. D'accord. Amis de Radio Alpa, c'est peut-être l'émission que vous attendez. Aujourd'hui, Asialogie vous emmène en Corée du Nord. Et Didier nous informera sur les moyens pour s'en échapper.
Eh oui. Parce qu'on forcément, on a un peu envie de s'en échapper.
Oui,
parfois.
Mais il y en a qui y retournent.
Oui, oui, bah, non, hein, ne dévoile pas tout.
Non,
s'il
c'est vrai, il ne faut pas que je dévoile tout. Alors, la Corée du Nord s'appelle officiellement République Populaire Démocratique de Corée, la RPDC. Alors, il paraît qu'aux Jeux Olympiques, dans la présentation des équipes, il y avait une grosse bourde de fête.
Hein, oui, je l'ai vu.
Au lieu de dire la République de Corée, enfin, ils se sont trompés entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et la Corée du Sud n'a pas du tout apprécié.
Oui, et il n'y a pas eu que cette bourde-là aussi, pour faire une petite aparté, pardon, oui, avant de partir, oui. Il y a aussi des athlètes qui vont payer cher le oui. selfie, je pense,
oui,
qu'ils ont
avec
fait
la Corée du
avec
Sud.
La Corée du Sud. Ils y sont allés de cœur, de bon cœur, comme ça, sans réfléchir, ah oui. malheureusement, je crois. Et je crois que ce
ils
petit instant
de
va être très compliqué. Oui.
Alors, c'est la partie nord de la péninsule coréenne. La Corée du Nord, elle est bordée par la Chine et la Russie au nord. Je plante bien le décor, c'est important.
C'est clair.
Et par la Corée du Sud au sud. Bien sûr, il n'y a que
c'est
la
bon.
Corée du Sud au sud.
C'est ça.
Avec laquelle elle partage comme frontière la célèbre zone démilitarisée de 4 km de large, la soi-disant infranchissable DMZ, située sur le 38e parallèle. Une zone inhabitée dans laquelle patrouillent de très nombreux militaires de chaque côté.
D'accord.
Voilà.
Donc il doit avoir une faune sauvage
oui,
intéressante,
c'est
finalement.
Ça. Ça, c'est prouvé.
C'est... Et en t'écoutant
faune,
que je me dis ça.
La faune, elle est absolument incroyable ouais, là-bas. Elle s'est développée.
C'est ça, ils sont
la
tranquilles
végétation.
De,
ils sont
de
tranquilles.
Tout humain. Donc,
c'est
du coup,
ça. Personne ne les chasse.
Et voilà.
On en reparlera de la oui. DMZ parce que ça mérite une émission, franchement.
Okay.
Alors, la Corée du Nord compte 26 millions d'habitants, donc pas très peuplée. 51 millions en Corée du Sud, qui est peut-être un peu plus grande hein, en superficie.
D'accord.
Et la capitale, c'est Pyongyang. La Corée du Nord compte 120 000 km², soit 4 fois moins que la France. C'est un pays très montagneux, avec environ 80% du territoire constitué de montagnes et de collines.
À 80%?
80%. Alors, ce ne sont pas des très hautes montagnes, mais quand même, c'est de la haute montagne.
D'accord.
Alors, il y a le mont Paektu, qui est situé au nord du pays, qui est une montagne sacrée, qui est sur la frontière avec la Chine, et le sommet le plus haut de toute la péninsule. Il fait 2744 mètres.
Et ça, c'est le plus haut?
C'est le plus
D'accord.
haut de la Corée.
D'accord. Okay.
C'est un ancien volcan considéré par tous les Coréens, j'insiste beaucoup là-dessus, et les Chinois comme une montagne sacrée. Il est le berceau du peuple coréen et du peuple mandchou.
Ah oui.
Et tous les sommets de son massif côté coréen ont été rebaptisés par le régime Corée du Nord, dont un par le nom de la fameuse mère Noël coréenne, la mère de Kim Jong-il,
ah bah
la fameuse Kim Jong-suk.
C'est étonnant.
Voilà. Et il y a aussi de grandes plaines de zones agricoles dans l'ouest et le sud du pays. Alors pour revenir sur le mont Paektu, il faut savoir que donc il y a presque la moitié qui se trouve en Chine.
Mmh.
Et donc les Coréens du Sud prennent l'avion pour aller en Chine, pour aller visiter leurs montagnes sacrées. Ils y ont accès par
ah d'accord,
la Chine.
Ils contournent le problème en passant par la Chine.
Ils contournent,
okay.
Voilà, parce qu'ils ne peuvent bien sûr absolument pas traverser la Corée du
j'imagine
Nord.
J'imagine bien.
Mais par contre, les Chinois ont développé tout un tourisme spécifique à destiner des Coréens du Sud pour qu'ils visitent leur mont sacré, le mont Paektu.
Écoute, il y a de
l'argent voilà, hein, ils sont toujours au taquet pour ça. Voilà, alors le pays est traversé par plusieurs rivières, hein, nées du fameux mont Paektu, dont la Yalu et le Tumen, qui forment respectivement des frontières naturelles avec la Chine et la Russie. C'est pour ça qu'on peut imaginer que c'est tentant de franchir ces
ouais.
fleuves.
Mmh.
Et bien sûr, la Corée du Nord possède une longue côte bordant la mer Jaune à l'ouest et la mer du Japon à l'est, qu'on appelle, pas la mer du Japon en Corée du Nord, on l'appelle ouais. la mer de l'Est.
Ah d'accord.
Voilà, des zones à traverser peut-être.
Voilà, après, moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus au-delà de ça, c'est le climat, quelle faune, quelle flore, est-ce que c'est totalement différent ?
Alors, le climat de la Corée du Nord est tempéré avec quatre saisons distinctes, comme chez nous, avec un hiver froid et sec, un printemps doux, comme l'automne, mais avec un été très chaud et humide et très pluvieux à cause de la mousson. Et ça, c'est important de noter, responsable d'inondations catastrophiques pour les habitants, parce que ça manque d'infrastructures de protection.
J'imagine bien.
Et quant à la faune, on retrouve les mêmes espèces que chez nous, en Europe, avec d'autres animaux, comme l'ours noir. Enfin, quoi qu'on a des ours aussi, nous.
Oui.
Mais par contre, on n'a pas le léopard du fleuve Amour.
Ah, ça non, je ne connaissais pas.
Voilà, le léopard
du fleuve Amour
qui est en grand danger d'extinction.
Ah, aussi.
Et il y a quelques dizaines d'années, existaient encore quelques spécimens de tigre blanc.
Ah, par là aussi, tiens.
Oui, mais ils ont disparu de ce côté de la montagne. Alors, on en retrouve en Chine, où ils vivent... Enfin, il y a une cinquantaine d'individus très protégés.
Ouais.
Du côté du Mont Pektou, du côté chinois. Donc ça, c'est le tigre blanc. Le tigre, il faut savoir que c'est l'animal emblématique de la Corée.
Donc c'est bien qu'il le préserve.
C'est ça, mais il n'y en a plus du côté coréen. Alors pourquoi ça, je ne le sais pas. Alors quant à la végétation, c'est 70% du territoire qui est recouvert de forêts, avec de nombreuses essences d'arbres. C'est un pays magnifique qu'on aimerait pouvoir visiter.
Ouais.
Il y a une particularité, c'est que la Corée du Nord est connue pour ses plantes médicinales et surtout pour le ginseng.
Le fameux ginseng.
On en parlera aussi du ginseng. Il y a de nombreuses propriétés curatives.
Tout à fait.
Alors, son nom latin, c'est Panax ginseng. Et Panax, ça veut dire panacée en latin.
D'accord. Bon, alors, je ne sais pas si la Corée du Nord, c'est la panacée, mais j'aimerais en savoir plus maintenant. On a parlé du climat et de la géographie, c'est de l'histoire de la Corée du Nord, parce que finalement, j'en sais pas grand-chose. Et puis,
j'ai parlé que de la géographie, comment je vous ai mis en appétit comme ça.
Comment on en est arrivé là, comment ça s'est fondé?
Voilà, alors la Corée du Nord, c'est un pays récent, puisqu'elle a été fondée en 1948.
C'est ça, je me doutais bien que c'était à cette
période-là. Voilà, comme l'Inde, dont on a parlé
il n'y a pas longtemps.
Alors, Kim Il-sung est le fondateur du pays et il a établi un régime communiste basé sur l'idéologie Juche, une doctrine d'autosuffisance nationale.
Bah là, ils y sont.
Voilà, c'est sûr. Après sa mort, son fils Kim Jong-il lui a succédé, suivi de son petit-fils Kim Jong-un, né en 1984. Et c'est lui qui est l'actuel président depuis 2016. Alors, petit rappel, la Corée, avant sa division, avait été annexée à l'Empire du Japon en 1910 et a été sous contrôle japonais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et pendant cette période, il faut se souvenir que le peuple coréen a subi une répression sévère, une assimilation forcée et une effroyable exploitation économique. Et avec la défaite du Japon en août 1945, la Corée a été libérée. Mais les États-Unis et l'Union soviétique ont rapidement pris des mesures pour occuper toute la péninsule. Et la Corée a donc été divisée le long du 38e parallèle. Et les soviétiques, ils occupaient le nord. Oui. Et les Américains le sud, partage de territoire. Et cette division, qui devait être temporaire, a jeté les bases de la future séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
D'accord, comme d'autres pays se sont divisés après la guerre, il est resté.
Voilà.
Le mur n'est pas tombé là-bas.
Le mur n'est pas tombé. Okay. Alors pour évoquer cette séparation, on va écouter le très célèbre et émouvant chant coréen. Ouais. Alors, chant coréen du Nord et du Sud, ça s'appelle Arirang.
D'accord.
C'est une chanson folklorique emblématique de tous les Coréens, souvent considérée comme l'hymne non officiel du pays, au Nord comme au Sud. D'accord. C'est une mélodie qui exprime la tristesse, la nostalgie et la séparation. Alors, Arirang, c'est un col de montagne symbolique comme un lieu de passage ou de difficulté, donc c'est bien de circonstance, que l'on doit surmonter. Et en 2012, Arirang a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Au moins quelque chose qui les réunit alors.
Voilà, Arirang.
Eh bien, écoutons alors.
Arirang, Arirang,
Voilà, on a pu profiter donc de cette chanson qui les réunit. En attendant, moi j'ai envie de savoir ce qui les a désunis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette séparation est devenue effective en fait entre les deux pays? Parce que j'entends bien l'après-guerre, mais c'est une histoire qui dure depuis.
Oui, c'est ça, c'est une histoire qui dure. Mais c'est finalement assez simple. En 1948, sous l'occupation soviétique, un gouvernement provisoire communiste a été mis en place dans la partie nord de la Corée. Et donc, c'est le fameux Kim Il-sung, l'ancien guérillero communiste qui avait combattu contre les Japonais, considéré comme un héros, hein, quasiment, et soutenu par l'Union soviétique qui va diriger le gouvernement. Il ne sera pas encore président tout de suite. Ouais. Et dans la partie sud, une autre présidence sera proclamée, soutenue par les États-Unis. Ce sera celle de Syngman. C'est Syngman, ça s'écrit Ri, mais ça se prononce Li. Et c'est devenu Li. Aujourd'hui, il n'y a plus de Ri. Okay. Voilà. Alors, n'oublions pas que c'était la guerre froide.
Oui, c'est clair.
Voilà. Donc, après la fondation de la République démocratique de Corée, en septembre 1948, Kim Il-sung a consolidé son pouvoir en éliminant ses rivaux politiques et en établissant un État strictement contrôlé. C'est alors que la guerre de Corée a éclaté entre les deux pays et entre les membres d'un même peuple.
Ouais, ça, c'est dramatique.
Voilà. Et en juin 1950, toujours soutenu par l'Union soviétique, les forces nord-coréennes ont envahi le Sud, ayant pour objectif la réunification. Mais la réunification, non pas par le Sud,
oui.
par
le
nord.
Oui, j'entends bien.
Voilà.
C'était réunir par la force. Quoi,
c'était réunir par la force, avec le soutien de la Russie. Enfin, de l'Union soviétique
à l'époque. On est
alors bien sûr, ça n'a pas marché car la Corée du Sud a été soutenue non seulement par les États-Unis, mais aussi par la Chine de Chiang Kai-shek, nationaliste. Voilà.
D'accord.
Et une vingtaine d'autres pays, dont la France.
Oui.
On a été sur ce coup-là aussi. Mm-hmm. Et la guerre s'est terminée en 1953 par un armistice, mais sans traité de paix, laissant la péninsule divisée comme elle était avant la guerre. Et on en est toujours là aujourd'hui. En
fait. On est juste dans l'armistice. Quoi.
On est, le traité de paix n'a pas été signé. La guerre n'est pas finie.
D'accord. Et du coup, comment ça s'est développé pour passer de ce régime à ce qu'il est aujourd'hui, ce régime politique dans cette nouvelle Corée du Nord, quoi?
Voilà. Bah, c'est simple aussi. Après la guerre, Kim Il-sung a continué de renforcer son régime, c'est-à-dire il l'a durci, installant définitivement un état totalitaire avec un culte de la personnalité autour de sa propre personne.
Comme je suis surpris.
Et autour de sa famille.
Oui, ça, j'imagine.
C'est
bien.
Une véritable dynastie, on peut le dire. On en est au troisième monarque,
oui,
on peut le dire.
Oui.
Quasi déifié, puisqu'on donne les noms de la... Les sommets portent les noms de la famille, etc.
Ouais.
Enfin, c'est impressionnant. Donc, Kim Il-sung mettra en place un contrôle strict de la population, une économie centralisée et une diplomatie basée sur la militarisation, avec le développement d'un programme nucléaire dans les décennies suivantes. Donc là, ils étaient très en avance. Et Kim Il-sung a dirigé le pays jusqu'à sa mort en 1994, suivi de son fils Kim Jong-il, puis de son petit-fils, donc,
que lui, on connaît.
Qu'on connaît. Kim Jong-un, qui est jeune, je crois qu'il a 40 ans.
Ah oui, il est jeune, oui.
Oui, il est jeune, il est né en 94, justement.
Mais 40 ans, il est jeune, oui.
Il est jeune, très jeune pour un président. On n'a pas fini d'en entendre parler.
Je crains.
Voilà, donc tous les trois ont poursuivi la même politique, encadrée par l'unique parti des travailleurs de Corée, qui exerce un contrôle total aussi sur les membres du gouvernement.
D'accord, alors moi, ça ne me fait pas toujours rêver la Corée du Nord, parce que c'est quoi son économie? Comment ils arrivent à fonctionner? C'est un pays très pauvre.
Oui, c'est un pays très pauvre et l'économie nord-coréenne est très centralisée et contrôlée entièrement par l'État. Mmh. Alors, il y a des ressources naturelles importantes, mais l'économie est inefficace. Les sanctions, en plus, internationales, sont strictes. Et l'incompétence des dirigeants aussi.
Attention, madame, ce que vous dites.
C'est une stricte
incompétence.
Confirme. Et il y a de la corruption, bien sûr, à tous les niveaux. Et tout ça, ça entraîne des périodes de pénurie de toutes sortes, aggravées par la sécheresse et aussi de nombreuses inondations répétées chaque année parce qu'il n'y a pas de travaux qui font que ça empêche d'être inondé. N'importe qui construit n'importe où. Et il y a des centaines de morts chaque année. Alors, quant à l'agriculture, c'est un secteur essentiel, mais en difficulté vu le manque de modernisation et de rendement.
Je suppose.
Il y a eu des famines récurrentes avec de nombreux morts, la plus grave ayant eu lieu dans les années 1990. D'autre part, quoi qu'on puisse en penser, le service public est extrêmement restreint et sauf pour les besoins internes du régime.
Ah ben j'imagine la police.
Et ceux qui sont apparentés. Oui, puis les, je dirais des employés au service
oui.
de.
Oui, bien sûr. Ah oui.
Des dirigeants.
J'imagine aussi. Oui.
Voilà. Alors avec tout ça, on comprend pourquoi le commerce extérieur de la Corée du Nord est limité. Alors aujourd'hui, c'est la Chine, hein, devenue communiste entre-temps, qui est de loin le principal partenaire commercial de la Corée du Nord, suivi par la Russie.
Mais bon, il faut... D'autant plus aujourd'hui, j'imagine.
Oui, et mais je dirais quelque part, heureusement, parce que la Chine, y a quand même, c'est quand même beaucoup plus souple, hein, on le sait bien. Et ça permet, je dirais, aux Coréens du Nord d'avoir une petite échappatoire.
Oui, d'accord. Et puis, puis déjà, de vivre et pas être dans la famine constante,
c'est ça,
quand même.
C'est ça. Il y a du trafic.
Certes, des sanctions, c'est sûrement important.
Il y a du trafic avec la Chine.
Mais c'est quand même aussi important que ce peuple puisse survivre, au moins. Quoi.
Oui, oui.
D'accord. Bon, alors, il y a une économie parallèle, alors,
oui,
du coup.
Oui, il y a
c'est
du
possible,
trafic,
quand même.
Didier.
Ah, oui. Ah, je pensais que c'était tellement verrouillé que ce n'était pas possible.
Bah, en fait, c'est verrouillé, mais ils ont quand même aussi un manque de moyens.
Oui.
Et... y a beaucoup de restrictions, donc il y a une économie informelle qui s'est développée après la famine de 90. Le gouvernement a été obligé de fermer les yeux là-dessus parce que le peuple se serait révolté d'une façon ou d'une autre. Donc ils ont fermé les yeux surtout sur ce qui se passe sur la frontière chinoise.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et depuis les années 2000, la Corée du Nord tente de se réformer et autorise une certaine forme d'activité privée strictement contrôlé. Ça s'est quand même un petit peu assoupli.
Ouais.
Et il a mis en place des zones économiques spéciales pour attirer les investissements étrangers.
Oula.
Mais ça a un succès limité, il faut bien le dire.
Je pense que ça doit... Bon, alors, on a parlé de l'économie, mais dans ce lavage de cerveau, que, enfin, ça c'est moi qui le pense, qu'ils doivent avoir au quotidien, la culture, il y a du cinéma, du théâtre, ils lisent, il y a quelque
oui,
chose.
Oui, oui,
oui,
mais alors
même.
Tout est contrôlé, et puis ils lisent des choses très anciennes, hein.
Oui.
Ils ne sont pas du tout dans la modernité, ils sont plutôt une culture classique.
Oui.
On se doute bien évidemment que la culture c'est un outil de propagande hein, pour promouvoir l'idéologie du régime, et ça concerne bien sûr tous les arts.
D'accord.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur la vie quotidienne là-bas. Ben, en résumé, ils n'ont accès à rien venant de l'Occident ou de la Corée du Sud.
Oui.
Et du moins, rien de ce qui est récent.
Mmh. Hein.
Et ils vivent comme ils peuvent, je dirais, loin de la modernité, manquant de beaucoup de choses et enfermés dans une doctrine, je dirais, liberticide.
Ouais.
Toutefois, il y a des contenus illicites qui arrivent à pénétrer le pays.
Ah oui, ça j'en avais entendu parler.
Par
oui.
des parachutages du sud.
Ah oui.
Avec les ballons. On parlera des ballons
d'accord.
aussi.
Ah, moi,
les ballons avec les déchets d'un côté et les ballons avec la technologie.
D'accord.
On
a
Sud.
Le souvenir d'il y a quelques mois, on en avait parlé,
oui.
des jeunes qui avaient récupéré des clés USB
c'est
avec
ça.
Des chansons, des
voilà,
BTS ou
des,
tout ce qui
des
est,
clés drama, du, tout
voilà,
ça, mais, plein de choses, des médicaments.
Mais enfin. Ça peut coûter cher si tu te fais prendre.
Et ça peut coûter cher. Alors on comprend alors un peu mieux pourquoi les Nord-Coréens cherchent à partir de leur pays pour une vie meilleure.
Bien sûr.
Donc Didier, tu vas nous expliquer ça, tu vas nous parler
après,
des chemins pour quitter la Corée
bien
du
sûr.
Nord.
Oui, oui. Mais
voilà, ouais, voyage bien risqué. Donc, on va s'écouter, alors, Le chemin du soldat.
Ah là, on y est. Là.
C'est un orchestre typique de
ah
la
là,
Corée du
Nord.
Ah
là, mes amis, je pense qu'on va être en Corée du Nord.
On y est.
Ne tournez pas le bouton de la station. On y est, là. Allez, je vous laisse découvrir.
Le chemin du soldat.
C'est ça.
Oh,
C'est très beau ce chemin du soldat, Didier, quand même. Ah, c'est oui. très émouvant, je trouve.
Je ne vais peut-être pas l'écouter trop souvent quand même.
Oui, mais c'est très typique hein, ah oui, de ce qu'on écoute en Corée du Nord.
C'était l'idée quand on a cherché une musique, on est bien d'accord.
Ils sont très doués en musique, il hein, faut le savoir, en musique classique particulièrement.
Ah d'accord, je préférerais peut-être alors.
Alors, Didier, on sait que la Corée du Nord est quasi coupée du monde, que sa frontière avec la Corée du Sud est ultra militarisée. Ça. Comment peut-on s'enfuir de la Corée du Nord, Didier?
Oh, bah, vous vous en doutez bien, c'est très dangereux de fuir par la DMZ. Hein. Ça, c'est très sécurisé, on en a parlé un petit peu. Même s'il y en a qui essaient au péril de leur vie, comme un homme en 2017 qui s'est pris quand même 5 balles,
oui,
mais
même.
A fini par réussir quand même. Hein, attention, depuis 2017, seuls 3 soldats nord-coréens ont réussi à franchir la DMZ. Le premier en août, aidé par des soldats sud-coréens. Et chose incroyable, le 18 juillet 2024, dans l'autre sens, Travis King, un soldat américain, l'a traversé, lui. Le soldat venait de passer 2 mois en prison, car coupable d'agression, il devait rentrer aux USA pour avoir des sanctions. Et à l'aéroport, hop, il s'est échappé, il a rejoint un groupe de touristes en route pour la DMZ, il a filé de l'autre côté, eh bien, il a été emprisonné, mais il a été extradé aux États-Unis, il sera condamné pour désertion.
C'était
bête,
un peu inconscient.
Hein. Oui, c'était vraiment la dernière chance, quoi. Mais ça n'a pas suffi.
Alors, quels sont les autres chemins pour s'évader en dehors de la DMZ?
Bien sûr, il y a les civils nord-coréens empruntent d'autres itinéraires beaucoup plus discrets, plus longs et pourtant presque aussi dangereux. Il y a le plus évident, le chemin par la mer. Mais c'est très périlleux. Une famille a réussi cette traversée en octobre 2023 sur un bateau branlant avec de telles réussites. Pardon, mais c'est rarissime. Hein. Donc, le plus souvent, ils passent illégalement par la frontière chinoise.
Voilà.
On y revient. Voilà, longue de 1450 km,
oui,
moins surveillée, forcément plus amicale, avant
c'est
de
ça.
Peut-être rejoindre la Corée du Sud. Des années après, par contre, c'est le chemin vraiment le plus long. Quoi. Ils passent par la montagne où ils traversent le fleuve quand il est gelé ou en été quand les eaux sont basses et arrivent en territoire chinois ami de la Corée du Nord.
Oui, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, donc en fait, ils traversent plusieurs pays parce que pour retourner en Corée du Sud, la route est encore bien
c'est
longue.
C'est ça, exactement.
Voilà, alors qu'est-ce qui se passe pour ces transfuges quand ils arrivent en Chine, Didier?
Alors comme tu l'as dit, c'est le début d'un long périple, hein, car l'objectif des transfuges est d'aller en Corée du Sud. À ne pas oublier qu'ils sont dans l'illégalité et qu'ils risquent d'être extradés vers le nord s'ils se font prendre. Vous imaginez bien ce qui leur arrive dans ces cas-là, mais certains nombres d'entre eux resteront en Chine finalement, se marieront et vivront dans la clandestinité et puis ils rapporteront beaucoup de devises à leur pays d'origine.
Il y en a qui ferment les yeux, je pense.
Oui, je pense. Ceux qui continuent le voyage, on dit qu'ils prennent le train pour Séoul. Bon, c'est une expression imagée qui signifie que le voyage sera encore bien long. Il y en a quelques-uns qui rejoindront l'ambassade de Corée du Sud en Chine, mais ils ne sont pas très bien accueillis car ça crée des problèmes diplomatiques.
Bien sûr.
Sinon, les transfuges passent d'autres frontières, la Mongolie en traversant le désert de Gobi, pas facile, Gobi, ou par le Laos, puis la Thaïlande ou le Vietnam. Il faut de l'argent, comme toujours, et pour cela, les transfuges prennent le risque de travailler au noir, puis ils se feront aider par des passeurs, souvent liés à des associations humanitaires. Des missions religieuses ou par des militants pour les droits de l'homme.
Oui, je pense que ce n'est pas la même chose que ce qui se passe actuellement en Méditerranée, par exemple.
Non, ce n'est pas
là,
tout à fait...
Là, on est dans le cadre de missions humanitaires, on peut dire.
Ouais. Donc, c'est difficile, c'est plein de dangers. Et puis, ils ont toujours peur d'être dénoncés ou trahis, quoi.
Alors, qui sont les transfuges nord-coréens, Didier?
Alors, ils sont près de 30 000 nord-coréens qui ont réussi à fuir le régime de Pyongyang depuis 1950.
C'est pas beaucoup, je trouve.
Finalement, non, ça fait peu. Hein.
Ça fait peu
depuis 1950, quand même. 74 ans, c'est
ça.
Voilà, à rejoindre le Sud, selon les estimations. La plupart viennent des régions frontalières de la Corée du Nord et sont des femmes à plus de 70%.
Ah oui, ça c'est étonnant.
Ouais, je ne pensais pas. Car les hommes sont coincés par le service militaire qui dure 10 ans.
Oui,
une
bonne explication.
10 ans, mon
c'est
Dieu.
C'est une explication valable.
Voilà, ça aide pas.
C'est pour ça que ce sont des femmes.
C'est ça. Les études montrent que très peu de transfuges viennent de l'élite. Car la motivation principale pour l'exil, c'est l'économie. Hein.
Oui.
Ce n'est pas politique comme on pourrait le croire finalement. Et à la fin des années 90, suite à la plus grande famine du pays, que les vagues de réfugiés vont commencer à affluer vers le sud. Mais ce flux de réfugiés s'est tari en janvier 2020 lorsque Kim Jong-un a fermé les frontières à cause du Covid. Des miradors de nouvelles clôtures, des nouveaux miradors, pardon,
oui,
des barbelés ont été installés. Puis bah, là, ça rend possible l'entrée en Chine, quoi, sans autorisation.
Oui.
Depuis 2020, seule une quinzaine de personnes a pu fuir le pays et rejoindre le Sud.
Alors pourquoi veulent-ils absolument aller en Corée du Sud, Didier ?
Ah, la très grande majorité des Nord-Coréens qui décident de quitter leur pays se rendent en Corée du Sud, car bah, c'est plus facile, tout simplement. On parle la même langue,
oui.
C'est la même culture d'origine, en tout cas. C'est le même peuple. Bah, il ne faut pas oublier qu'ils ont souvent toujours de la famille ou des amis de l'autre côté de la frontière. Ils savent aussi que le gouvernement sud-coréen a un programme de réinstallation dédié bah, et qu'ils seront aidés quoi,
ils
là-bas.
Ils seront aidés.
Bah, oui.
Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, Didier ?
Eh bien, peu. Peu, Corinne, comme toujours, on court après le temps.
Alors, comment seront aidés les transfuges ? Tu peux nous en dire un petit Alors, quelques mots quand même.
Bah, en fait, ils vont avoir des tests, des interrogatoires. Vous imaginez bien des services secrets.
Oui, on les prend
secrets.
Pour des espions.
Bah, voilà, dans un premier temps. Et puis après, bah, ils vont aller ensuite 3 mois dans un Anawong, selon le programme mis en place en 1999 avec le ministère de l'Unification de Corée du Sud.
Ah oui, il y a un ministère qui est dédié.
Alors, avec... Bah bien sûr, hein, imaginez, je fais vite, hein, mais check-up médical, on apprend à vivre à la coréenne du Sud parce qu'il y a un grand fossé entre l'un et l'autre. Et puis bah, après, vous êtes orienté pour être formé, pour pouvoir trouver un travail. Et puis bah, ils obtiennent une citoyenneté au bout de 6 mois. Puis le gouvernement va vous aider après à vous loger. Vous allez toucher des aides sociales. Mais finalement, ce n'est pas si facile parce qu'il y a de la discrimination aussi qu'ils subissent à cause de leur accent et bah, de leur comportement différent, quoi.
C'est pour ça qu'il y en a qui retournent là-bas.
Voilà. Et
on a encore
jusqu'au
un peu
traumatisme
de temps,
virtuel.
Virtuel.
Voilà. Donc voilà, il y en a qui essayent de retourner là-bas. Et puis même, il y en a aussi certains bah, qui sont en dépression et puis voire se suicider.
Oui, c'est pas forcément.
Mais si vous retournez là-bas, c'est 7 ans de camp de rééducation.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc,
oui,
c'est pas simple.
Il y a un programme de réinsertion, mais ça ne marche pas. Enfin, pas bien.
Non.
Bon, Asialogie, c'est fini, les amis. Merci, voilà. Didier. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Pour la suite.
Tout à fait.
À bientôt.
À la semaine prochaine. Salut. Bonne semaine. Au revoir.